Quel malheur pour toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui trahit et qui n'a pas été trahi. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de trahir, on te trahira. Seigneur, fais-nous grâce. Nous mettons en toi notre espérance. Sois leur force chaque matin et aussi notre salut en temps de la détresse. En entendant le tumulte, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On ramasse votre butin comme ramasse le criquet. On s'y rue comme une ruée de sauterelles. Le Seigneur est élevé, car il demeure en haut. Il remplit Sion d'équité et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. La crainte du Seigneur, c'est là son trésor. Des héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes restent désertes. Plus de passants sur le sentier. Il a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est en deuil. Il dépérit. Le Liban rougit et se flétrit. La plaine côtière est comme une plaine aride. Bashan et Carmel secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit le Seigneur. Maintenant je me dresserai. Maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin. Vous mettez au monde de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous dévorera. Les peuples seront des fours à chaud, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes proche, éprouvez ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un frisson saisit les impies. Qui de nous pourra séjourner auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra séjourner auprès de brasiers inextinguibles? Celui qui marche avec justice et qui parle avec droiture, qui rejette le gain de l'extorsion, qui secoue les mains pour ne pas recevoir de pot de vin, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir ce qui est mauvais. Celui-là demeurera dans les hauteurs. Des rocs fortifiés seront sa citadelle. Le pain lui sera donné et l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa beauté. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Tu songeras à tes erreurs. Où est le secrétaire? Où est le percepteur? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple arrogant, le peuple au langage impénétrable, à la langue balbutiante qu'on ne comprend pas. Regarde, Sion, la cité de nos rencontres festives. Tes yeux verront Jérusalem, domaine tranquille, tente qui ne sera plus démontée, dont les piquets ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront pas détachés. C'est là vraiment que le Seigneur est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètrent pas les bateaux à rames et que ne traverse aucun navire magnifique. Car le Seigneur est notre juge, le Seigneur est notre commandant. Le Seigneur est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés. Ils ne maintiennent plus la solidité du mât et ne tendent plus les voiles. Alors, on partage un immense butin. Les boiteux mêmes prennent part au pillage. Aucun de ceux qui demeurent là ne dit « Je suis malade ». Le peuple qui habite là voit sa faute pardonnée.
On parcourt quelques chapitres d'Ésaïe pendant 4 semaines. Et là, on est à la 3e, il y aura encore dimanche prochain. On réalise en écoutant le texte qu'on a affaire à une littérature qui est loin de nous et pas forcément le style dont on a l'habitude, qu'on a l'habitude de lire. Et pourtant, il y a des choses intéressantes et pertinentes pour nous aujourd'hui, j'en suis certain. Et on devrait le découvrir dans le passage. Au mois de janvier dernier, Ipsos a organisé et pratiqué un sondage sur les nouvelles fractures de la société française. Et à Michel Vinocq, spécialiste d'histoire politique et aussi idéologique de la France contemporaine, on pose la question « Que vous inspire ce sondage ?» Et voici ce qu'il répond. « La France a peur. » Déjà, ça commence bien. Hein. « Vous Vous avez passé une journée tranquillement dehors, en train de profiter du beau temps. La France a peur. Ces mots prononcés de manière théâtrale à la télévision par Roger Gickel en 1976 sont d'actualité. Aujourd'hui, ce sondage l'atteste. Ce qui hante la société française n'est plus l'horreur d'un fait divers, mais la peur du présent et de l'avenir. Les Français, du moins la grande majorité d'entre eux, semblent avoir peur de tout. Du chômage croissant, de la détérioration économique, de la mondialisation, des étrangers trop nombreux, de l'Union européenne, de l'islam conquérant et intolérant, etc. etc. Décrit notre société comme étant angoissée, dans la peur. Et ce soir, peut-être certains d'entre vous n'ont pas du tout cette peur au ventre, ce sentiment d'angoisse. Vous êtes là, justement, vous avez profité d'une belle journée. Et pourtant, il semble que ce soit le reflet de notre société actuelle, certaines angoisses. Et comment les vivre quand on passe par là? Comment est-ce qu'on vit et on sort de telles angoisses? Comment passer de l'angoisse à la paix, à la sécurité? Le passage de ce soir semble-t-il quelque chose à nous dire. Il y a d'abord la question où se tourner dans l'angoisse, les versets 1 à 6, la folie de nos fausses sécurités, 7 à 12, et celui qui restaure par sa sécurité. C'est le plan que je vous propose pour ce passage. Où se tourner dans l'angoisse, déjà? On appelle chapitre 28 à 33 le livre des malheurs, parce qu'il y a 6 malheurs qui sont annoncés. Là, c'est le 6e, le dernier. Et l'invocation du malheur est décrite vis-à-vis de plusieurs personnes, mais ici, c'est celui qui ravage, qui trahit. Et là, on se pose rapidement la question, mais de qui parle-t-il? De quel est ce peuple qui ravage, qui trahit? Eh bien, ce n'est autre que l'Assyrie. On le découvre au fur et à mesure qu'on lit les pages d'Ésaïe, en particulier chapitre 39, on découvre qu'il y a cette superpuissance du moment qui veut devenir de plus en plus grande, avoir son hégémonie sur toute la région. Et en sachant que le peuple de Juda avait au départ été fondé sur une alliance avec Dieu, on imagine naturellement que s'il vit dans la foi en Dieu, il se tournerait, sa première réaction serait de se tourner vers Dieu et d'avoir confiance en lui. Mais c'est pas la tendance. Au chapitre 30, un peu plus tôt, on découvre que le malheur... Décidément, j'ai de la peine. Mathieu, tu veux bien prendre le relais au niveau du PowerPoint? C'est gentil. Au chapitre 30, le malheur qui est décrit, c'est le malheur qui est adressé au peuple du Juda, qui finalement renonce et ne veut pas faire appel à Dieu. Il méprise Dieu. Voilà le malheur qui leur est adressé. La solution, en fait, elle fonctionne pas. La solution qu'il recherche, c'est quoi? C'est de se tourner vers une alliance avec des nations étrangères. Et c'est ça que Dieu dénonce au chapitre 30, le fait de se tourner vers l'Égypte. Mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. L'invasion assyrienne a bien lieu, les villes de Juda sont envahies, il reste que Jérusalem. Et là on se dit, c'est le moment pour réaliser qu'il faut se tourner vers Dieu, l'invoquer. Mais là encore, la deuxième solution envisagée, c'est de proposer un marché à l'assaillant. Deux Rois 18 relate comment une forte somme est proposée à Sanchérib, le roi assyrien, en échange d'une fin des hostilités. 9 tonnes d'argent, 900 kilos d'or. Et le problème, c'est que Sanchérib ne tient pas son marché. Il ordonne de poursuivre le siège. Ouais, juste enlever ça. Ouais. Il ne tient pas son marché. Cette deuxième solution envisagée, elle n'a pas été tenue non plus. Et là, on a l'impression que c'est la loi du plus fort qui fonctionne. C'est celui qui écrase, qui trahit, comme on l'a vu au départ. Toi qui ravages, toi qui trahis. On comprend mieux ces paroles avec le contexte à l'esprit. Alors qu'il y avait ce marché, il n'a pas été tenu. Et à bout d'idées, à bout de ressources, finalement, le peuple se tourne vers Dieu. Et on le voit au verset 2 dans le texte devant vous. Seigneur, fais-nous grâce. Nous mettons en toi notre espérance.
soit leur force chaque matin et aussi notre salut au temps de la détresse. Et là, on les sent au bout du rouleau, on les sent abattus et ils ont tout essayé, les alliances, les rançons, rien n'a marché, c'est vers Dieu qu'ils se tournent. Et c'est bien à la grâce de Dieu qu'il faut faire appel. Fais-nous grâce. Parce qu'ils ont jusque-là, ils ont méprisé Dieu en prétendant pouvoir faire sans lui. Et la description qui suit, on se demande avec cette description-là, pourquoi ils n'ont pas fait appel à Dieu plus tôt? Pourquoi ils ne se sont pas tournés vers lui plus tôt? De manière imagée, Ésaïe affirme qu'il suffit pour Dieu de parler et les peuples fuient. Il suffit de se lever, les nations disparaissent, se dispersent. Et le verset 4 confirme. C'est comme si la bataille était déjà remportée. Comme si le butin était déjà récolté, ramassé. Dieu est décrit comme celui qui domine, qui règne, au verset 5. Et le verset 6 résume bien comment Dieu est en mesure d'apporter sécurité à son peuple. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. La crainte du Seigneur, c'est là son trésor. C'est lui qui donne sécurité, qui donne stabilité. Et son salut, sa providence, elle englobe tout. Sagesse, connaissance. Alors qu'on a l'exemple de Judas à l'esprit et alors qu'on réfléchit à soi-même et à notre tendance, il y a un certain nombre de questions qu'il faut qu'on se pose sur la base de ce texte. Pourquoi est-ce qu'on a avant tout tendance à chercher ailleurs qu'en Dieu notre appui fondamental pour l'existence? Pourquoi cette tendance, au cœur de l'angoisse, à ne pas prier, mais à plutôt s'inquiéter, chercher des solutions à droite et à gauche, sans faire appel à lui? Pourquoi estimer que la prière, c'est pour les situations extrêmes? Est-ce que je ne réalise pas qu'il est digne d'être craint, révéré, honoré? Et pourquoi pas nous inspirer de cette prière de saint Augustin? Seigneur, tu nous as fait pour toi. Et c'est pourquoi notre cœur est dans une continuelle inquiétude tant qu'il ne repose pas en toi. Pourquoi pas faire cette prière vôtre? Seigneur, tu nous as fait pour toi. Et c'est pourquoi notre cœur est dans une continuelle inquiétude tant qu'il ne repose pas en toi. On passe ensuite à la folie de nos fausses sécurités dans les versets 7 à 12. Là, on décrit l'angoisse dans ces versets, alors que la sécurité elle a été cherchée ailleurs. Barbarossa, c'est le nom de l'opération par laquelle Hitler a engagé la guerre avec la Russie le 22 juin 1941. Et dans un sens, on pouvait s'attendre à un tel conflit. Après tout, deux régimes totalitaires avec deux idéologies différentes, côte à côte. À un moment donné, les deux savaient qu'il allait avoir un conflit. Mais pour Staline, l'opération elle est tout de même une surprise complète. Il avait bien été prévenu par les services secrets. Il avait vu des manœuvres de la Wehrmacht du côté est de l'Allemagne. Mais il a signé avec Hitler un pacte de non-agression. Et il a deux lettres personnelles d'Hitler pour le rassurer sur les raisons de ses manœuvres. Et pourtant, l'alliance a bel et bien été rompue. La surprise, elle est totale pour Staline. Et il y a non seulement le sentiment d'avoir été dupé, mais aussi le fait de ne pas être prêt pour ce conflit. Ici, la surprise, elle est palpable. Les héros poussent des cris dans la ville. La délégation qui est allée négocier la paix avec la Syrie, ils pleurent amèrement. Terrible sensation d'avoir été dupé. Et face à la crise, toute activité cesse. Cesse. Les routes restent désertes. Et l'exclamation au sujet de l'ennemi assyrien, c'est « Il a rompu l'alliance, il a méprisé les villes, il a de respect pour personne. » Et c'est tout l'environnement qui ressent l'angoisse, verset 9. ce qui devait les sécuriser et leur apporter cette sécurité, ça les plonge dans une angoisse plus grande. Non seulement ils sont dans le conflit, mais en plus ils ont perdu l'argent en ayant payé une rançon qui n'a servi à rien. Ésaïe doit encore décrire les conséquences de ces fausses sécurités, mais il souligne l'importance d'une intervention au plein cœur de cette angoisse, au verset 10. « Maintenant, je me lèverai, dit le Seigneur. Maintenant, je me dresserai. Maintenant, je serai élevé. » Il s'agit bien d'un anthropomorphisme. Dieu ne se lève pas physiquement, il est esprit. Mais ces expressions disent bien que Dieu est sur le point d'intervenir. Un peu comme un guerrier qui se lève pour le combat, il va intervenir. Et alors que cette intervention est mentionnée, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va barder pour les Assyriens? C'est vrai qu'on voit dans la première partie les prémices d'une victoire qui aurait bel et bien lieu au chapitre 37. Mais on a l'impression d'un principe plus général qui est décrit par trois expressions ou trois images où il est question du jugement de Dieu. Écoutez plutôt, vous avez conçu du foin, vous mettez au monde de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous dévorera. Les peuples seront des fours à chaud, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Prenez la première image. On entend parfois l'expression « c'est la montagne qui a accouché d'une souris ». C'est pour dire quoi? Finalement, qu'avec les projets immenses, on pouvait s'attendre à une montagne qui débouche sur une montagne ou quelque chose d'encore plus grand. Mais le résultat, c'est une souris. Un résultat décevant. Ici, c'est quelque chose de décevant, à la fois dans la conception et dans le résultat. Du foin, on aboutit à la paille. Que ce soit les Assyriens ou Juda, chacun fait de son mieux, réfléchit, agit. Chacun essaie d'être réaliste, pragmatique pour bien gérer la situation, soit envahir ou soit répondre à l'envahisseur, mais sans que Dieu ait droit au chapitre. Le résultat, il est à la mesure. Vous avez conçu du foin, vous donnerez naissance à de la paille. Et la deuxième expression dit l'effet boomerang. Votre souffle, c'est un feu qui vous dévorera. On se targue de vouloir souffler sans Dieu, de vouloir vivre son indépendance sans Dieu. Eh bien, c'est participer à sa propre ruine. C'est quelque chose qui nous brûle. Et de manière générale, la troisième expression témoigne du jugement inévitable pour tout être qui pense pouvoir vivre sans Dieu, se détourner de lui et faire sa propre loi. Les peuples seront des fours à chaud, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Qu'est-ce que ce passage a à nous dire au sujet de nos angoisses et de la manière de les vivre? Une chose qui me semble ressortir de ce passage, c'est que Dieu veut nous aider à être conscients des limites de nos fausses sécurités et même de l'effet destructeur de ces fausses sécurités. À différents endroits dans la Bible, on voit qu'il est possible de demander, de vouloir à tout prix quelque chose que Dieu finit par nous le donner. Une fausse sécurité qu'on veut tellement qu'à la fin, il nous la donne. Mais pour notre malheur, notre destruction, au cœur des moments d'angoisse ou de questionnement, vers quoi est-ce que je me tourne pour trouver sécurité? Est-ce que j'estime pouvoir trouver ma sécurité essentiellement dans le sentiment d'avoir une certaine discipline de vie et une capacité à gérer? Est-ce que j'estime pouvoir la trouver dans le fait d'être aimé, d'être apprécié par les autres? Est-ce que j'estime pouvoir la trouver dans une relation en particulier? Est-ce que j'estime pouvoir la trouver dans une situation financière enviable? Même si chacune de ces choses est bonne en soi, aucune n'est à même de nous donner cette sécurité fondamentale, la sécurité dont nous avons besoin. Et ce texte nous invite à reconnaître que c'est même une plus grande fragilité au final, une plus grande angoisse qui en découle. Lorsqu'on on place tous nos espoirs sur ces appuis-là. On arrive maintenant au troisième point, celui qui restaure par sa sécurité. Une question qu'on pourrait avoir avec ce dernier point à l'esprit, c'est est-ce que les jeux sont faits? Finalement, on a eu là trois expressions qui nous disent qu'il y a un jugement inévitable. On se tourne vers de faux appuis, eh bien, on récolte ce qu'on a semé. Est-ce qu'on est condamné à subir les conséquences de ces fausses sécurités pour le reste de notre vie, pour l'éternité? Au verset 13, il y a l'annonce d'un message que tout le monde doit entendre. Tout le monde. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes proche, éprouvez ma puissance. Une invitation à une prise de conscience. Et elle est possible, cette prise de conscience. Écoutez ce qui se passe à Jérusalem. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un frisson saisit les impies. Qui de nous pourra séjourner auprès d'un feu dévorant? Les habitants finalement réalisent la gravité de l'offense vis-à-vis de Dieu et ils ont envie de changer. On le voit tout au long de la Bible. Selon l'expression, Dieu est lent à la colère et riche en bienveillance. Il est prompt à vouloir pardonner, restaurer. Et le verset 24 va dire le pardon de Dieu. Mais c'est intéressant de relever que ce n'est pas cela qu'il dit tout de suite. Il y aura le pardon à la fin. Mais écoutez ce qu'il dit avant cela, les exigences de sa loi. Celui qui marche avec justice et qui parle avec droiture, qui rejette le gain de l'extorsion, qui secoue les mains pour ne pas recevoir de pot de vin, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, qui se bande les yeux pour ne pas voir ce qui est mauvais, celui-là demeurera dans les hauteurs. Des rocs fortifiés seront sa citadelle. Autrement, ce qui produit la sécurité, c'est finalement une vie intègre. Et remarquez que c'est une intégrité complète. Dans l'action, dans la parole, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, cette intégrité, elle devrait être partout. Avec les médias et la traque de ceux qui ont vécu une certaine hypocrisie sur le plan fiscal, on imagine la paix et la sécurité que certains qui ont refusé d'avoir cette hypocrisie entre avoir un compte à un tel endroit et le fait de le nier, peut se dire que ces personnes qui ont été intègres, elles expérimentent une certaine sécurité maintenant. Qu'elles soient encore bien vues dans leur parti politique ou pas, qu'elles soient exclues, il y a une certaine sécurité. Mais la raison fondamentale pour la sécurité, elle doit être davantage décrite. Et Ésaïe affirme que les yeux de chacun doivent voir un roi dans toute sa beauté, au verset 17. Son caractère excellent. Et associé à la vision de ce roi, c'est la vision de toute l'étendue d'un territoire, liberté de mouvement, aucun signe de menace. Et là, pour celui qui voit ce roi-là, il n'y a plus que le souvenir de l'angoisse. Intéressant de réaliser aussi dans nos propres vies que on expérimente une certaine sécurité, souvent par contraste. N'est-ce pas le cas? On pense à, on a un souvenir en particulier d'une situation angoissante et on est tellement heureux d'en être sorti, d'être dans une autre situation. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Tu songeras à tes terreurs et le souvenir est là. Où est le secrétaire? Où est le percepteur? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple arrogant. Souvenir difficile, mais qui rappelle la sécurité présente. Et la sécurité, elle est décrite avec assurance. Regarde Sion, la cité de nos rencontres festives. Tes yeux verront Jérusalem, domaine tranquille, tente qui ne sera plus démontée, dont les piquets ne seront plus jamais enlevés, dont les cordages ne seront pas détachés. Quelque chose d'expérimenté, de visible, il le décrit avec des images, mais c'est vécu. Une sécurité réelle, palpable, visible. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi il décrit une tente. Si vous faites du camping, c'est peut-être pas votre représentation de la plus grande sécurité face à l'orage ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'il parle pas d'un blockhaus ou d'une forteresse, quelque chose de plus ancré dans le sol? Il y a probablement le souvenir de quelque chose de fondateur pour cette nation. Au début, il y a cette alliance de Dieu avec son peuple et la fabrication de quoi ? D'une tente, du tabernacle, symbole de la présence permanente de Dieu. Présence permanente qui est symbolisée ici. Et ce roi, qui est ce roi ? Est-ce qu'il peut vraiment produire cette sécurité, cette paix ? Au verset 22, « Car le Seigneur est notre juge, le Seigneur est notre commandant, le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. » Autrement dit, cette sécurité, elle vient uniquement, seulement d'un Dieu tout suffisant. On a besoin de sécurité, de salut ? Il est présenté comme notre juge, notre commandant, notre roi. Toute attaque est mise à mal et le verset 21-23 le décrit à sa façon. Il y a pourtant une difficulté qu'il faut relever dans le texte. On l'a dit au départ, il y a un manque d'intégrité du côté de Judas et de ses responsables. Et dans les versets 15 et 16, on a dit, pour avoir la sécurité, il faut être intègre, il faut marcher droit. Alors comment est cette sécurité ? Est-ce qu'elle pourrait être accessible pour un peuple comme eux, pour des personnes comme vous et moi ? Comment est-ce que cette sécurité pourrait être accessible ? Dans l'affaire Cahuzac, chacun a essayé d'utiliser des propos les plus durs pour dire ce qu'il avait fait. Peut-être montrer l'image qui a été reprise à nombreuses reprises dans les médias. Et l'un d'entre eux, c'est « impardonnable ». Impardonnable. Est-ce que les fausses sécurités, c'est impardonnable ? Est-ce que c'est impardonnable ? Le chapitre se termine en affirmant « Aucun de ceux qui demeurent là ne dit « Je suis malade ». Le peuple qui habite là voit sa faute pardonnée. La guérison, elle est totale, à la fois sur le plan physique et spirituel. Le peuple est restauré. Dieu dit ici vouloir pardonner, restaurer. Mais en repensant au chapitre, on se dit, mais est-ce qu'il n'a pas dit qu'il voulait nous laisser vivre les conséquences de nos erreurs ? À trois reprises, il l'a dit, avec des expressions fortes. Comment est-ce qu'il peut parler maintenant de pardon ? Dans le livre d'Ésaïe, quand on part à la recherche de cette restauration complète, spirituelle, physique, on la retrouve. Écoutez la description qui est faite d'un certain serviteur, Ésaïe 53, versets 4 et 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix à l'intérieur est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Des siècles plus tard, dans son évangile, Matthieu cite ces paroles. Et pour lui, c'était une évidence. Les gens que Jésus est en train de guérir, pour lui, c'est l'évidence que c'est l'accomplissement de ses paroles. C'est Jésus seul qui incarne parfaitement la signification de son nom. Jésus, Dieu, sauve. C'est Jésus seul, le Messie, le Roi. C'est Jésus seul qui peut se définir comme « Je suis l'Éternel, le Dieu de l'Alliance ». C'est Jésus seul, le Juge, le Chef de l'Église, celui qui commande, celui qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Alors qui est à même de vous sortir, de me sortir de nos angoisses ? Qui est à même de nous offrir une parfaite sécurité ? Pas une fausse sécurité qui finalement a des effets pervers, mais une vraie sécurité. Qui est à même, lorsque vous avez méprisé sa grâce, de vous pardonner, de vous restaurer, quand vous avez lamentablement trahi sa confiance ? Là encore, c'est Jésus seul. Je vous invite à prier. Père Céleste, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous méprisons ta grâce, prétendons que tu n'as rien à voir dans notre vie. te demandons pardon pour l'offense que cela représente, toi qui nous as donné le souffle. Nous te prions, Père, que tu nous accordes la grâce de reconnaître la sécurité que tu nous as offerte en Jésus, celui qui a pris nos maladies, notre peine à notre place pour nous permettre d'être en paix, pour nous permettre d'être restaurés. Et nous voulons vivre de cette sécurité-là pour la gloire de ton nom. Amen.